Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique et vous avez bien raison. Graphite que vous pouvez écouter sur internet, graphite.net pour ceux qui nous écoutent en direct ou en différé grâce au podcast, bien sûr, que vous pouvez récupérer pour toutes les émissions de Graphite d'ailleurs, mais également sur la bande FM 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Tous les samedis après VibraSOS, à partir de midi, eh bien, nous allons feuilleter ensemble la revue de presse de l'actualité scientifique pour nous tenir informés de ce qui se passe dans les laboratoires du monde entier avec encore pas mal d'informations que nous allons évoquer dans cette émission d'une heure. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver pour ce samedi 5 octobre qui est à la fois la journée mondiale des enseignants, très bien, ça tombe à samedi en plus, pourquoi pas, mais également, et ça c'est quand même le plus important, le 5 octobre est la journée mondiale du sourire. Qu'est-ce que ça va être agréable! On va se sourire pendant toute la journée du 5 octobre. Profitons-en, ça peut être très sympa. Et en plus, on a toujours dit qu'il faut sourire au micro, même si on ne te voit pas, on écoute toujours le sourire. Donc je vais essayer de tenir ce sourire et faire un petit peu travailler mes zygomatiques pendant cette émission d'une heure sur l'antenne de Graphite. Nous allons, au niveau de l'éphémérite de cette émission, pour ce 5 octobre, nous intéresser au 5 octobre 1975. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, une quarantaine d'années, l'ornithologue Jean-Paul Ledent découvre une nouvelle espèce d'oiseau qui s'appelle la Sittelle kabyle. Il a découvert ça en 1975. Plus près de nous, c'était en 2016 l'attribution du prix Nobel de chimie au français Jean-Pierre Sauvage, à l'écossais James Fraser Stoddart et au hollandais Bernard Lucas Fringinga pour leurs travaux sur la conception et la synthèse de machines moléculaires. C'était en 2016. Nous ferons une émission spéciale prix Nobel normalement à la fin de ce mois d'octobre pour faire un petit peu le point sur l'attribution des différents prix Nobel. Toujours au niveau de l'éphéméride, il est né un 5 octobre, c'était en 1879 à Baltimore. Il s'appelait Francis Peyton Rouse. Il est décédé en 1970 à 90 ans. C'est un virologue américain. Il reçoit le prix Nobel de médecine en 1966. Il met au point une méthode de conservation du sang, ce qui permet la création des banques du sang. Francis Rouse, Roux d'ailleurs, R-O-U-S, je ne sais pas si on prononce le S ou pas, il reste dans l'histoire médicale comme le premier découvreur de rétrovirus. Francis Peyton Rouse, donc né un 5 octobre. Au niveau de l'éphéméride, mort un 5 octobre, c'était en 1851, Marie-Jules César Lelorgne de Savigny, un zoologiste français qui participe à la campagne d'Égypte comme zoologiste spécialisé sur les invertébrés. Il est membre de l'Institut d'Égypte en 1798 dans la section de physique. Mon Dieu, très bien. Il est atteint d'ophtalmie quand il se trouve dans la vallée du Nil. Il est frappé entre 1817 et 1824 par une grave maladie des yeux qui l'oblige à rester dans l'obscurité. Il est sujet à des hallucinations, il doit d'abord suspendre ses activités, puis les arrêter complètement, et c'est fort dommage. Le zoologiste donc français, Marie-Jules César Lelorgne de Savigny, décédé un 5 octobre 1851. Il est revenu en France et décédé à Versailles. Voilà, ça c'était l'éphéméride du jour. Toujours intéressant, voilà, de s'intéresser à certains noms scientifiques. Certains sont connus, d'autres pas du tout, ce qui était à mon avis un petit peu le cas des deux, quoique Rouse c'était au niveau quand même médical assez connu par les chercheurs qui travaillent dans ce domaine-là. Vous le savez, depuis le début de cette année 2019, nous célébrons comme l'ONU, parce que nous faisons tout comme l'ONU, c'est l'année internationale du tableau périodique des éléments de Mendeleïev, ce fameux tableau des éléments chimiques que l'on avait dans nos salles de classe. Nous remplissons toutes les semaines une case pour essayer de découvrir un petit peu un composant chimique, et là on va parler du chrome. Le chrome, qui est un métal de couleur blanche, légèrement bleuté, il présente une bonne résistance à l'oxydation et c'est cette propriété qui est mise à profit pour protéger l'acier avec lequel il forme un alliage qu'on qualifie d'acier inoxydable. Et avec sa brillance, et bien sûr, il a trouvé sa place dans l'industrie automobile. Cet élément est également présent chez les artistes avec un pigment connu pour sa riche couleur verte qui est le vert oxyde de chrome. L'industrie automobile des années 1950-60 a été marquée par ses pare-chocs, bien sûr, brillants chromé, bien évidemment. Le nom du chrome, ça vient du grec. C'est très souvent le grec qui a donné le nom à tous ces éléments. Le grec chroma, qui signifie couleur, qui fait référence aux nombreux composés colorés du chrome. En fait, en 1761, Johann Gottlob Lehmann découvre un minéral rouge-orangé dans les montagnes de l'Oural. Il va le nommer d'abord crocoïte et ensuite c'est le français Louis-Nicolas Vauquelin qui, quelques années plus tard, à la fin du XVIIIe siècle, utilise des échantillons de ce minéral pour en extraire l'oxyde de chrome et il va isoler cet élément pur, le chrome, en 1798. La découverte de la première utilisation du chrome a été faite en utilisant des flèches sans aucun signe de corrosion qui dataient du 3e siècle avant Jésus-Christ, qui ont été trouvées telles quelles dans le mausolée de l'empereur Qingxi Huang, fondateur de la dynastie Qing en Chine. Et donc le chrome a été utilisé depuis très très longtemps, on le voit. Symbole chimique, grand C petit r. Alors attention, c'est un piège parce que le chrome s'écrit C-H-R-O-M-E, mais le C-H est déjà utilisé. Donc on a pris C-R pour le chrome et c'était la case numéro 24. Je pense qu'à la fin de cette année, nous allons quand même remplir une bonne moitié de ce tableau périodique des éléments, ce qui peut être un très bon moyen, voilà, d'en découvrir et de comprendre un petit peu plus tous ces éléments qui nous entourent, bien évidemment. Dans cette émission, on retrouvera Anne Fleur, bien sûr, qui va nous emmener cette fois, je crois, en Afrique du Nord pour nous parler des inventions qui ont été créées dans un pays particulier. Donc Anne Fleur, dans cette émission, bien sûr, comme c'est le cas pour sa chronique depuis maintenant quelques moins, je crois, depuis le printemps dernier où elle nous accompagne et c'est génial toutes les semaines et c'est tant mieux. Et puis voilà, on va un petit peu feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. On va commencer encore pour parler eh bien, de tout ce qui est réchauffement climatique et répercussions, bien sûr. Et notamment, on va parler des océans qui pourraient devenir nos pires ennemis à l'échelle mondiale si rien n'est fait pour donner un grand coup de frein aux émissions de gaz à effet de serre, selon un projet de rapport qui a été obtenu en exclusivité par l'AFP et qui a été relayé par la suite il y a quelques jours. Les réserves de poissons pourraient décliner, les dégâts causés par les cyclones se multiplier et 280 millions de personnes seraient déplacées à cause de la hausse du niveau des mers. C'est donc ce rapport du GIEC qui a été diffusé en exclusivité par l'AFP. Un rapport sur les océans et ce qu'on appelle la cryosphère, c'est-à-dire les banquises, les glaciers, les calottes polaires, tout ce qui est lié donc à la glace. Un rapport qui ensuite a été officiellement dévoilé fin septembre. Ce document assez riche fait quand même 900 pages, donc on va s'accrocher pour pouvoir le lire. C'est le 4e rapport spécial de l'ONU publié en moins d'un an. Les précédents rapports sont tout aussi alarmants. Ils portaient justement sur l'objectif de limitation à 1,5 degré du réchauffement climatique. Ça portait aussi sur la biodiversité, sur la gestion des terres, sur le système alimentaire mondial. Et donc, selon ce 4e rapport qui compile les données scientifiques existantes et est vu comme une référence, eh bien, la hausse du niveau des océans pourrait à terme déplacer, comme je vous l'ai dit, 280 millions de personnes dans le monde. Et ce, dans l'hypothèse optimiste, où le réchauffement climatique serait limité à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Je vous rappelle que c'était un petit peu les objectifs de la COP21 signée à Paris il y a quelques années maintenant. Si vous êtes fidèle de cette émission, je crois qu'il y a 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus, c'était mi-septembre, on avait parlé de ce rapport de recherche de chercheurs français qui, lui, était beaucoup moins optimiste et un peu plus pessimiste sur le réchauffement de la Terre, parce que là, on parle de 2 degrés et le rapport de ces chercheurs français, pardon, je vais y arriver, envisageait plutôt une augmentation de 7 degrés. Donc là, on est dans une situation encore optimiste. Avec l'augmentation prévisible de la fréquence des cyclones, de nombreuses grandes villes proches des côtes, mais aussi des petites nations qui vivent sur des îles, seraient frappées d'inondations chaque année à partir de 2050, même donc dans les scénarios les plus optimistes du réchauffement climatique. Quand vous observez l'instabilité l'instabilité politique déclenchée par des migrations de faible ampleur, je tremble en pensant à un monde où des dizaines de millions de personnes, voire des centaines, devraient quitter leur terre avalée par l'océan. C'est ce qu'indique Ben Strauss, qui est le directeur d'un institut de recherche basé aux États-Unis, qui travaille justement sur le climat. Le rapport donc, du GIEC prévoit en outre que, alors c'est vraiment une échelle assez large, 30 à 100% du permafrost, ce qu'on appelle le permafrost, c'est la couche du sol qui est gelée en théorie toute l'année, eh bien cette couche fonde d'ici 2100 si, bien sûr, les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent au rythme actuel. Donc c'est assez alarmiste. Le permafrost de l'hémisphère nord va libérer sous l'effet du dégel une bombe carbone faite de dioxyde de carbone, de méthane qui va accélérer encore le réchauffement. Des phénomènes déjà en cours pourraient aussi mener à une diminution continue des réserves de poissons, dont dépendent bien sûr de nombreuses populations pour se nourrir. Les dommages causés par les inondations pourraient être multipliés par 100, voire jusqu'à 1000 d'ici la fin du siècle. La fonte des glaciers provoquée par le réchauffement climatique va donner trop d'eau douce, puis trop peu, à des milliards de personnes qui en dépendent. C'est ce que pointe aussi ce rapport du GIEC. Selon ce rapport, les hausses des niveaux des mers au 22e siècle, donc le siècle suivant, pourraient dépasser plusieurs centimètres par an, ce qui est énorme, soit environ 100 fois plus qu'aujourd'hui. Et si l'augmentation des températures est de 2 degrés en 2100, prévision optimiste, je rappelle, ce sera le début d'une course en avant dans la montée des mers. C'est ce que avertit donc ce chercheur Ben Strauss. La publication de ce rapport arrive aussi après un sommet mondial pour le climat qui a été convoqué par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il veut obtenir des engagements plus forts des pays pour réduire leurs émissions de dioxyde de carbone. Ok, c'est important, on le sait, c'est pas la première fois qu'on en parle. En fait, les experts craignent que la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, l'Inde, c'est-à-dire les quatre principaux émetteurs de gaz à effet de serre, arrivent avec des promesses qui ne soient pas à la hauteur des enjeux. Et donc, on essaye de sensibiliser, de mobiliser, mais ça reste pour l'instant assez problématique. En tout cas, ce rapport annonce donc une hausse des océans qui pourrait engendrer, nous dit-on, dans les prévisions qui sont faites, engendrer 280 millions de réfugiés climatiques dans les prochaines décennies. C'est considérable. Et c'est une prise de conscience que l'on doit tous avoir. Alors, je pense que nous, simples citoyens lambda, on est d'accord et on est totalement concernés par cette évidence. Mais bon, il va falloir une mobilisation peut-être un petit peu plus importante et essayer d'infléchir aussi certaines politiques de grands pays, bien sûr. Ça ne va pas être une mince affaire, mais on suivra ça, bien sûr, notamment sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous retenir informé de l'actualité scientifique. Et vous avez bien raison, et aussi pour écouter un peu de musique. C'est ça, Biotine. À tout de suite.
Jewel of life.
Diamond Vang, c'était Front 79 sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir au courant de l'actualité scientifique. Et vous avez bien raison, vous nous écoutez sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, mais également sur la bande FM 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme tous les samedis entre 12h et 13h. On parle de l'actualité scientifique, technique et médical. Et donc médical, eh bien, il y a deux petits articles là que je souhaite évoquer avec vous, notamment cette information qui concerne la découverte d'un nouvel organe dans le corps humain. Oui, mais oui, nous sommes en 2019 et on découvre encore des organes. On se souvient, on en avait parlé l'année dernière, des chercheurs américains avaient déjà proposé de définir ce qu'on appelle l'interstitium, qui est constitué de l'ensemble des tissus interstitiels au niveau des intestins comme étant un organe à part entière. L'année d'avant, en 2017, c'était le mésentère qui également pouvait prétendre au titre de 79e organe du corps humain. Eh bien, on continue encore à découvrir, ou en tout cas à définir des nouveaux organes. Il y a des chercheurs de l'université de Stockholm qui affirment à leur tour avoir découvert un nouveau type de cellule qui se trouve sous la peau et qui jouerait un rôle important dans la perception de la douleur. Et en fait, ces cellules forment un espèce de rayon ou de réseau de mailles qui serait juste sous la couche sous-cutanée supérieure, donc juste sous la peau en clair. Et ces cellules pourraient être considérées comme étant un organe à part entière. Alors jusqu'à présent, il était admis que la sensation de douleur, c'est-à-dire que quand on touche quelque chose de brûlant, quand on se coince un doigt dans une porte par exemple, eh bien cette sensation était transmise par des récepteurs qui étaient situés sous la peau et dont les fibres nerveuses sont la plupart dépourvues de ce qu'on appelle la myéline, cette espèce de gaine qui va entourer ses nerfs. Et donc, si ça les entoure, ça permettait d'avoir une isolation électrique. Et cette isolation électrique était assurée par d'autres cellules, qu'on appelle des cellules de Schwann, qui entouraient justement ces neurones. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir transmettre le signal au cerveau. Eh bien, les chercheurs donc, de cette université de Stockholm affirment aujourd'hui dans une étude parue dans la grande revue Science, donc c'est quand même pas n'importe quoi, ils affirment avoir identifié un nouveau type de ces fameuses cellules de Schwann, qui serait capable de ressentir directement la douleur, c'est-à-dire indépendamment de ces cellules qui étaient au départ chargées de le faire. Et donc pour le vérifier, eh bien Patrick Hensforth et son équipe ont utilisé ce qu'on appelle l'optogénétique. Alors c'est une protéine sensible à la lumière qui a été introduite dans ces fameuses cellules qu'on a identifiées. On a travaillé sur des souris et on peut ensuite les stimuler d'une façon un peu artificielle grâce à un laser. Et lorsque la lumière est activée, eh bien, on s'est rendu compte que les souris montraient des comportements indiquant une douleur, soit en agitant les pattes, soit en essayant de se lécher. Donc elles ressentaient quelque chose. Les chercheurs ont ensuite désactivé ces fameuses cellules de Schwann qu'ils avaient donc un petit peu ciblées et qu'on considérait qu'elles étaient impliquées dans ce mécanisme. Et ils ont essayé de réitérer un petit peu des stimulations jugées douloureuses. Le froid, le chaud, on a carrément piqué avec des épingles les souris, et ils ont remarqué que seule la douleur mécanique, c'est-à-dire la douleur d'une piqûre d'épingle, était diminuée. Le froid et le chaud n'avaient pas eu de réaction spécifique, ce qui donc suggère que ces fameuses cellules de Schwann ne seraient sensibles qu'à ce seul type de douleur. Nous démontrons l'existence d'un organe jusqu'alors inconnu avec un rôle essentiel dans la détection de la douleur. C'est ce qu'assure donc Patrick Hensforth. Ces cellules qu'on va juger comme mécanosensibles, donc sensibles à une action mécanique, sont intimement liées aux nerfs qui avaient déjà été identifiés sous la peau, pour transmettre des informations d'ordre nerveux, justement, et donc cette sensation de douleur. Cette découverte, en fait, tout l'intérêt, ce serait d'avoir des implications importantes dans le traitement des douleurs chroniques, comme les neuropathies périphériques. C'est ce qu'avancent, justement, les chercheurs. C'est tout l'intérêt de cette découverte. Alors, attention, il convient pour l'instant de rester prudent au sujet d'expériences menées sur la souris parce qu'elles n'impliquent pas forcément que ces fameuses cellules de Schwann jouent le même rôle chez l'homme. Pourtant, Cependant, tous les organes sensoriels découverts précédemment chez la souris se sont avérés présents aussi chez l'homme. C'est ce que précise Patrick Hensforth. Donc, il considère que le fait d'avoir étudié ces cellules sur les souris, on pourrait avoir le même dispositif sur l'homme. Mais voilà, donc un tout nouvel organe sensible à la douleur qui a été découvert sous notre peau. Nouvel organe donc découvert, et vous l'avez compris, derrière, une véritable explication encore sur la sensation de douleur, ce qui va permettre voilà, de pouvoir développer des thérapies pour les personnes atteintes de douleurs chroniques. Voilà, c'était tout l'intérêt. On parlera donc bientôt de ces fameuses cellules de Schwann. Schwann, fait penser à quelque chose, du côté de chez Schwann peut-être, je n'en sais rien. Autre information concernant les vaisseaux sanguins qui se transformeraient en os. C'est un titre assez, qui interpelle un peu, si bien que j'ai voulu en savoir plus sur cet article que proposait Futura Science. On avait parlé la semaine dernière, il me semble, des maladies cardiovasculaires qui représentent la deuxième cause de décès en France et la première principalement chez les femmes. Or, la calcification des artères, c'est l'un des facteurs qui accroissent le risque de mortalité et de maladies cardiovasculaires. Ce phénomène a lieu lorsqu'il y a des cristaux de phosphate de calcium qui vont s'accumuler sur la paroi des vaisseaux sanguins. Et donc, la calcification peut aussi bien concerner des vaisseaux situés au niveau de la moelle osseuse que des vaisseaux qui se trouvent en dehors des os. Et pour cette recherche réalisée à l'université du Texas, eh bien, des vaisseaux sanguins d'une moelle osseuse humaine ont été observés au microscope assez précisément. Et les chercheurs ont distingué deux types de vaisseaux qui étaient calcifiés. Certains étaient un petit peu en transition, on va dire. D'autres étaient totalement ossifié, c'est le terme qui est décrit dans cet article, la calcification de certains vaisseaux au niveau de la moelle osseuse serait tellement intense qu'ils paraissent donc ossifiés. Ensuite, les chercheurs ont étudié des échantillons sanguins d'adultes en bonne santé, jeunes, moins jeunes, hein, et puis ils ont également eu des échantillons qui provenaient de rats, et ils ont récupéré dans ces échantillons de sang des particules ossifiées, et ils les ont observées justement au microscope. Et la plupart des particules, alors elles étaient bien sûr très petites, elles mesuraient moins de 15 micromètres de diamètre. Le micromètre, c'est encore beaucoup plus petit que le millimètre, donc ça reste encore totalement invisible à l'œil nu. Mais d'autres étaient un peu plus grosses et elles risquaient aussi de boucher les vaisseaux, et ça c'était important. Ces particules qui contenaient du collagène et du calcium pourrait participer justement à cette calcification des vaisseaux. C'est ce qu'explique Rhonda Prisby, qui est la principale auteure de cette recherche scientifique. Certaines des particules ossifiées sont suffisamment grosses pour encrasser les petits vaisseaux sanguins au niveau donc du système vasculaire. Ces particules ossifiées étaient souvent de forme mal allongée, mais elles avaient aussi parfois des bords un peu plus tranchants qui étaient capables de pouvoir endommager les vaisseaux. Et donc, pour cette chercheuse, ces dommages pourraient provoquer des événements conduisant à ce qu'on appelle l'artérosclérose, c'est-à-dire l'accumulation de plaques, ce qui peut limiter le flux sanguin au fil du temps. La présence de particules ossifiées dans la circulation pourrait donc expliquer la calcification des artères ou des valves cardiaques. Et donc, d'après elle, des vaisseaux sanguins de la moelle osseuse se transformeraient progressivement en os lors du vieillissement. Et donc, dans cet article paru entre autres dans la revue Microcirculation, les auteurs expliquent que l'ossification des vaisseaux de la moelle osseuse produirait des particules un petit peu ossifiées qui auraient donc ensuite accès, bien sûr, à la circulation sanguine. Une hypothèse pour expliquer la calcification serait également que des cellules des vaisseaux changent un petit peu de destinée, on va dire, et vont avoir un caractère qui font qu'elles vont se transformer elles-mêmes en os, alors qu'au départ, elles ne sont pas prévues pour ça. Donc, c'est une découverte qui pourrait aider les médecins à mieux détecter et traiter des problèmes cardiovasculaires, parce que ça pourrait, en détectant ces petites particules ossifiées dans le sang, ça pourrait servir de marqueur justement de la calcification des vaisseaux. Mais voilà, c'est personnellement moi la première fois que j'écoute le fait que les vaisseaux sanguins se transformeraient en os, ou en tout cas qu'ils sont dans un aspect de durcissement au niveau donc de ces vaisseaux sanguins, voire des artères, avec cette espèce de processus de calcification, d'ossification, qui aurait bien sûr des véritables conséquences dramatiques chez certains, au niveau des maladies cardiovasculaires bien sûr. Donc voilà, on a identifier cela. On a quelques explications sur l'origine de ces particules, mais évidemment, il va falloir poursuivre les travaux de recherche là-dessus. Et c'est assez intéressant parce que, voilà, on n'a pas du tout évoqué dans cette émission, depuis le temps qu'elle existe, cette spécificité des vaisseaux sanguins. Mais comme je vous dis, on en apprend tous les jours et c'est tant mieux dans cette émission. Allez, on va nous intéresser à la chronique d'Anne Fleur. Elle choisit un pays et elle nous évoque les différentes inventions qui ont été créées. Où est-ce que tu nous emmènes cette fois-ci, Anne Fleur ? Je suis très impatient de le savoir. Bonjour Anne Fleur, c'est à toi.
Good morning, biotineuses et biotineurs. Bonjour Jean-Noël, hello tout le monde. Alors me voilà de retour, prête à vous embarquer dans mon sac à dos pour découvrir un autre coin du monde. Depuis la rentrée, nous avons déjà pas mal vadrouillé quand même, hein, entre Chicago, le Maroc et Amsterdam. Aujourd'hui, je vous amène en voyage aussi bien dans l'histoire que dans les terres. Une idée ? C'est parti, direction l'Égypte. Et je vous propose d'enquêter avec moi sur ces inventions d'Égypte anciennes qui ont changé nos vies quelques millénaires plus tard. La première invention dont je vais vous parler, moi, elle m'a carrément surprise. L'Égypte ancienne, le saviez-vous, a inventé les tout premiers tests de grossesse. Eh oui, pas moins de 35 siècles, s'il vous plaît, avant la médecine moderne, les Égyptiens ont en fait mis au point ces fameux tests urinaires pour diagnostiquer de manière fiable une grossesse chez les femmes. À l'époque, il fallait en fait arroser le test d'urine, ok, comme ici, enfin comme maintenant, pardon, mais aussi d'orge et de blé, et on attendait ensuite que ça germe sous l'action de la folliculine, qui est une hormone. Voilà, ça vous embouche un coin, non ? Alors la seconde invention dont je vais vous parler, on l'utilise tous les jours à peu près, toute notre société moderne repose là-dessus, c'est les mathématiques. Alors vous allez me dire, non, c'est la Grèce. Eh bien, pas du tout. Si les Grecs furent excellents en maths et en astronomie, il paraîtrait qu'ils ont en fait tout appris en termes de mathématiques de leurs amis égyptiens. La principale différence, c'est en fait que la géométrie et l'arithmétique égyptienne ont été principalement utilisées pour des applications pratiques. Les mesures, les transactions commerciales, la construction de pyramides et le découpage de roches. Les mathématiques n'étaient à l'époque pas considérées comme une science théorique, mais bien appliquées. La troisième invention dont je vais vous parler, ça va vous paraître peut-être pas très technologique, mais c'était absolument dingue à l'époque. La bibliothèque. La bibliothèque antique la plus célèbre, c'est certainement celle qui venait d'Alexandrie. Celle qui était la bibliothèque royale d'Alexandrie. C'était en fait l'une des plus grandes et les plus importantes bibliothèques du monde antique qui était dédiée aux muses et aux déesses des arts. Alors bien que ce ne soit pas donc une invention un peu technologique comme je vous le disais, elle a quand même une valeur absolument énorme pour la connaissance qui a été recueillie pendant toute l'Antiquité en un seul et même lieu, Alexandrie. Elle a donc été fondée en Alexandrie vers 300 avant Jésus-Christ Et voilà, et son but en fait c'était vraiment d'établir un centre de connaissance et d'apprentissage, de rassembler toutes les informations connues sur le monde extérieur en un seul endroit. C'était absolument visionnaire et ça comptait donc plus d'un million de rouleaux de papyrus contenant la littérature, l'histoire, le droit, les mathématiques et les sciences. Impressionnant quand même. La quatrième invention dont je vais vous parler, nous allons parler agriculture ou agronomie. Le vin. Le vin, c'était en fait une des boissons les plus populaires chez les Égyptiens de l'Égypte antique. Ils n'étaient peut-être pas les premiers à l'inventer, mais il y a des images de cette époque qui montrent à quoi ressemblait leur processus, qui est très très similaire à celui qu'on utilise aujourd'hui. Les vignes étaient soigneusement cultivées et soutenues par des piliers en bois, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Le raisin était cueilli et placé dans des paniers où plusieurs hommes les pressaient avec une structure en bois qui en extrayait le jus. Et enfin, le vin était conservé dans des grands fours en argile et des grands pots en poterie. Il était généralement conservé dans des caves avec de l'huile, de la nourriture, etc., etc. Bref, ça nous rappelle quand même sacrément quelque chose et il semblerait que la vinification ne vienne pas uniquement de France, si vous voyez ce que je veux dire. La cinquième invention dont je vais vous parler, c'est peut-être ce pourquoi... Une des choses pourquoi l'Égypte est le plus connue encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est la momification. Dans l'Égypte ancienne, en fait, on croyait, donc vous le savez, en de nombreux dieux et déesses, et en outre, donc, on croyait fermement en la vie après la mort. Du coup, quand un pharaon, qui était le roi à l'époque, mourait, son ka, qui est, de ce que j'en ai lu, ce que j'en ai compris, sa force vitale, quittait son corps, mais seulement de façon temporaire. Le ba, d'autre côté, c'était l'esprit de la personne. Et il était important de préserver le corps, puisque l'esprit allait revenir. Alors, pour y parvenir, les anciens égyptiens ont créé un processus qui s'appelle donc la momification, et dans le but de préserver le corps de la décomposition après la mort. À l'aide du vin de palme et d'eau, tous les organes internes étaient soigneusement retirés et conservés dans des bocaux, à l'exception du cœur. On croyait en fait que le cœur était l'essence de la personne, et pas le cerveau. Et donc chaque organe avait un pot différent, il y en avait quatre au total, un pour l'estomac, un pour les intestins, un pour les poumons, un pour le foie. C'était en fait les organes les plus importants à l'époque. Ils étaient remis dans le corps après avoir été soigneusement lavés, séchés et emballés. Et après donc le processus, les corps étaient enveloppés dans du linge, placés dans les tombeaux spéciaux dans les pyramides égyptiennes. Ils étaient ensuite placés donc avec tout un dispositif qui allait les protéger du mal. Et donc voilà, c'est ça tout le procédé de momification. À ne pas reproduire chez soi, bien entendu. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si moi je vous parle d'Égypte, l'Égypte, c'est quand même sacrément impressionnant. Tout ce que cette nation, tout ce qu'on doit à cette nation, le test de grossesse, les mathématiques, la bibliothèque, le vin, la momification, et bien sûr, ce ne sont que des exemples, parce que franchement, si vous cherchez les inventions venant d'Égypte antique, on pourrait y passer la journée. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine, une excellente journée, un très bon week-end. Et puis, si vous avez des idées de voyage et de destination dont vous souhaitez que je vous parle, n'hésitez pas à m'écrire. À très bientôt. Au revoir.
Merci Anne Fleur. Oh, tu sais, les momies, on en a connu, à mon avis, tous les deux, des momies vivantes. Mais nous ne citerons jamais de nom. Merci Anne Fleur, très sympa de pouvoir nous faire voyager comme ça. Et là, c'était l'Égypte, bien sûr. On te retrouvera, alors pas la semaine prochaine, parce que c'est l'émission spéciale Fête de la Science. Mais on te retrouvera à la fin du mois, bien sûr, pour de nouvelles chroniques de ces inventions du monde. Un peu de musique, et on se retrouve juste après. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
My soul, more than the flesh, will make the difference.
Voilà, c'était Inuit, pardon, j'avais loupé la ligne Inuit avec le titre Dodo Mafutsi sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h, Biotine, l'émission d'actualité scientifique pour justement un petit peu savoir ce qui se passe dans le monde ou en Égypte, comme nous l'avait dit Anne Fleur, ou un peu plus en France, où on est dans l'espace. Et là, il y a eu une annonce il y a quelques semaines déjà, ça date de septembre, il me semble, et je n'ai pas encore eu le temps de l'évoquer, donc je l'évoque ici aujourd'hui dans cette émission du 5 octobre, c'est que pour la première fois, il y a des astronomes qui ont détecté de la vapeur d'eau dans l'atmosphère d'une planète qui est située dans ce qu'on appelle une zone habitable d'une étoile spécifique. Cette planète qu'on appelle K2-12b, un nom hyper, hyper sympa, comment tu t'appelles toi, K2-12b? 18B d'ailleurs, ah non, elle est plus grande, K2-18B, c'est un peu ce qu'on va appeler une super Terre. Eh bien, elle a été découverte par le télescope spatial Kepler de la NASA, c'était en 2015. Et donc, dans l'atmosphère de cette planète, on a détecté de la vapeur d'eau à partir de données acquises par le télescope spatial Hubble en 2016 et 2017. Eh bien, deux équipes de chercheurs ont utilisé des algorithmes améliorés pour essayer d'analyser la lumière filtrée par l'atmosphère de cette planète. Et les résultats ont donc révélé la signature moléculaire de la vapeur d'eau, ainsi que la présence d'hydrogène et d'hélium. Alors, les scientifiques sont convaincus qu'il y a d'autres molécules qui sont présentes, sûrement de l'azote, sûrement du méthane, mais pour l'instant indétectables dans les observations que l'on peut faire actuellement. Pour le moment, il est seulement question de vapeur d'eau dans l'atmosphère, en l'absence de modèles météorologiques plus poussés. Et si l'on s'appuie sur les données que l'on dispose pour l'instant, il est très difficile de savoir s'il y a de l'eau à l'état liquide qui se trouve sur la surface de cette planète. On n'en sait rien. Le calcul des quantités d'eau présentes dans l'atmosphère, comme le taux de la couverture nuageuse, est impossible à faire. Alors, à proprement parler, pour bien quand même comprendre de quoi, ce que l'on évoque ici, cette fameuse planète K2-18b, même si on considère que c'est une super Terre, ça n'est pas quand même une deuxième Terre, parce qu'elle est quand même 8 fois plus massive que notre pauvre petite planète Terre. La composition sur l'atmosphère est très différente également. Et puis, il y a un niveau élevé d'activité de son étoile qui va l'exposer à des niveaux de radiation qui sont complètement incompatibles avec une forme de vie de type terrestre. Alors, bien que cette planète pourrait avoir à la fois de l'eau à l'état liquide et des températures favorables à la vie telle que nous on la conçoit, eh bien les chances que cette planète abrite une vie sont faibles, voire nulles. Cela dit, si la vie n'est pas possible sur cette planète K2-18b, eh bien elle est possible dans les nuages, là où l'eau serait liquide. Enfin, il n'est pas exclu qu'une forme de vie très primitive ait pu profiter des niches biologiques pour s'y développer. Alors, dans un futur proche, les astronomes attendent beaucoup des prochains télescopes spatiaux qui seront lancés, mais le lancement n'est pas prévu avant la fin de la décennie 2020, donc il va falloir être patient, mes enfants, pour en savoir un peu plus. Et dans le cas de cette planète K2-18b, il faudra de nouveau chercher de l'ozone, du méthane, qui sont deux marqueurs d'une activité biologique. Mais voilà, on a au moins détecté de la vapeur d'eau dans l'atmosphère d'une planète qui serait habitable, donc beaucoup bien sûr de conditionnels, parce qu'il reste, vous l'avez compris, pas mal d'éléments à savoir un petit peu plus. Mais ce n'est pas la première fois qu'on évoque maintenant de la découverte d'eau ailleurs, et donc dans cette atmosphère de cette planète. C'est assez intéressant, bien sûr. Au niveau médical, on va revenir au stress. Faut savoir que dans un sondage d'OpinionWay qui date de 2017, la moitié des Français se déclaraient très stressés, assez stressés, mais les symptômes sont parfois difficiles à interpréter, les patients hésitent à consulter. Alors le stress a pourtant des conséquences sur la santé à long terme et une détection précoce permettrait une prise en charge plus efficace. D'où l'intérêt de l'invention de ces chercheurs de l'université de Cincinnati qui ont développé un test simple pour mesurer le stress à partir d'un échantillon de salive, de sang, d'urine ou même de sueur. C'est la revue American Chemical Society Sensors qui propose cet article, et cet article évoque un dispositif en fait qui comprend une bandelette réactive et une lampe à UV pour détecter différentes hormones du stress, la sérotonine, la dopamine, le cortisone et ainsi de suite. Et la longueur d'onde renvoyée étant spécifique à chaque molécule, il est ainsi possible de déterminer la quantité d'hormones présentes dans le liquide qui est testé. On trouve ces marqueurs du stress dans tous les fluides corporels. C'est ce qu'explique Andrew Steckel, qui est professeur d'ingénierie électrique à l'Université de Cincinnati. Et il explique que ce qui est ici unique, c'est qu'on ne mesure pas un seul marqueur, mais plusieurs à la fois. Et donc, disposer de plusieurs indices devrait, a priori, améliorer la fiabilité de l'indicateur. L'autre intérêt, c'est la simplicité d'utilisation, parce que c'est un test facile à réaliser et à interpréter. Alors, ça ne remplace pas un test en laboratoire, mais ça indique si vous avez besoin qu'un professionnel prenne le relais, c'est ce qu'il explique. Les recherches ont notamment été financées par l'US Air Force, qui espère pouvoir utiliser l'appareil pour tester le stress de ses pilotes, nous dit-on. Mais les chercheurs sont persuadés que leur invention a un haut potentiel commercial, bien sûr, toujours une histoire d'argent derrière, évidemment, parce que on pourrait vendre une version de ce kit auprès du grand public, notamment dans les pharmacies américaines, d'ici quelques mois. Donc voilà, on pourra bientôt faire notre propre test pour savoir notre taux de stress mesuré rien qu'avec un peu de salive, par exemple. Voilà, ça peut être intéressant ou pas à voir, bien sûr, mais ça va pouvoir être maintenant développé et commercialisé. C'est ça aussi la science. Allez, on écoute un dernier titre avant la fin de cette émission. Vous êtes toujours sur l'antenne de Graphite et vous écoutez toujours Biotine. À tout de suite.
C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio. Avec des gens qui sont intelligents, et moi j'ai pas d'avis, parce que je trouve que ça dépend. Je suis passé dans le futur, j'avais trop envie d'y repasser. Je me suis fait plein de contacts, là-bas les gens ont plein de projets, et moi je n'existais plus. Mais c'est pas important. J'ai entendu ta voix dans la radio. Et elle disait: on joue tous la même chanson, mais on la joue pas de la même façon. On écoute tous la même chanson, mais on l'entend pas.
C'était dans la radio. Je trouve que c'est un titre qui, au moins, est totalement en corrélation avec cette émission. Et c'était Jacques, un Parisien. Sur l'antenne de Graphite, vous écoutez Biotine, l'émission de science, tous les samedis entre 12h et 13h. Nous faisons le point sur l'actualité scientifique. Et là, on va parler de deux petites articles intéressants, puis l'autre un petit peu plus anecdotique. Le premier concerne ce qu'il s'est passé il y a 30 ans, presque jour pour jour. Il y a des chercheurs qui annonçaient avoir résolu tous les problèmes d'énergie de l'humanité il y a une trentaine d'années, il y a 30 ans même. Lors d'une conférence de presse, ils déclaraient avoir obtenu une réaction de fusion nucléaire en plongeant simplement une paire d'électrodes en palladium dans un bocal d'eau lourde. C'était à température ambiante, à pression ambiante. C'était une réaction qu'on avait qualifiée à l'époque de fusion froide, par opposition bien sûr à la réaction de fusion nucléaire qui ne peut en principe être obtenue que dans des conditions de température très élevées. Il y a plusieurs grands projets internationaux, dont le projet ITER à Cadarache dans le sud de la France qui tente de maîtriser la fusion nucléaire en laboratoire, car son potentiel est réputé près de 4 millions de fois supérieur à celui de la combustion du charbon et même 4 fois supérieur à celui de la fission nucléaire qui est réalisée pour l'instant dans les centrales nucléaires de production d'électricité. Et aussi, ça permettrait de pouvoir réduire cette production de déchets nucléaires. Bref, on comprend pourquoi il y a 30 ans, c'était le 23 mars 1989, l'annonce de ces deux chercheurs, Stanley Pons et Martin Fleischmann, avait fait tant de bruit. On comprend aussi la déception qui a suivi cette annonce lorsqu'aucun chercheur n'est parvenu par la suite à reproduire cette expérience de fusion froide. Et l'idée, peu à peu et assez rapidement, est tombée dans l'oubli. Eh bien, pas tout à fait, parce qu'on apprend il y a quelques jours que une trentaine de physiciens qui sont financés notamment par Google à hauteur de 10 millions de dollars travaillent depuis 3 ans sur cette thématique et ils ont décidé de rouvrir le dossier. L'affaire avait été classée en quelques mois seulement. Or, en science, rien ne devrait être classé aussi rapidement. C'est ce que raconte Matthew Trevithick, physicien qui explique son engagement. Et lorsqu'on lui demande s'il ne craint pas d'être pris pour un fou, il répond tout simplement « il faut savoir prendre des risques ». Et oui, des risques et des risques payants, parce qu'au cours de leurs expériences, eh bien, les chercheurs ont travaillé notamment sur les interactions entre l'hydrogène et le palladium, et des interactions qui intéressent aussi ceux qui étudient le stockage de l'énergie ou encore la catalyse. Donc tout le monde est attentif pour savoir ce qu'ils vont découvrir. Ils ont découvert que l'hydrogène préfère pénétrer les nanoparticules de palladium par les sommets plutôt que par les faces de ces particules. Ok, c'est un peu compliqué à comprendre. L'idée, en fait, c'est on a de quoi concevoir des matériaux qui permettraient d'augmenter les concentrations en hydrogène jusqu'à initier des réactions de fusion. Et pourtant, à ce jour, les chercheurs reconnaissent n'avoir trouvé aucune preuve d'effet justement qui pourrait expliquer d'une façon un peu plus prosaïque ce qu'ils ont pu découvrir. Mais ils maintiennent toutefois que leur recherche laisse entrevoir, je cite, que la fusion froide est possible. Matthew Trevithick affirme ainsi que réaliser ce qu'on appelle une expérience de référence reste son objectif. En clair, il veut réitérer cette expérience de fusion froide sans ambiguïté, avec de façon qu'on puisse vérifier et même reproduire de façon indépendante cette expérience. C'est son objectif et c'est intéressant parce que il y a 30 ans, cette annonce de la fusion froide avait, dans la communauté scientifique, fait énormément parler et il y a eu après le soufflet est retombé quasiment instantanément, en quelques semaines, voire quelques mois, parce que personne n'a réussi en fait cette expérience, si bien qu'on s'était demandé si ça n'avait pas été quelque part une escroquerie. Ça revient donc par le biais de cet article relayé entre autres par le site Futura Science, mais par d'autres sites également, ça revient sur le devant de l'actualité parce que on se dit quand même que ça peut être une piste vraiment intéressante. On n'en parle pas très souvent dans cette émission, mais l'énergie est un véritable défi technologique qu'il va falloir remener assez rapidement pour justement en termes de production d'électricité, de production d'énergie, de stockage de l'électricité. Et cette notion de transition énergétique est aussi importante. Donc tous ces éléments sont reliés et on regarde donc maintenant cette fusion froide qui pourrait être théoriquement une solution révolutionnaire. Théoriquement, maintenant, c'est la pratique qu'il va falloir faire, essayer de pouvoir pratiquement la réaliser. Et pour l'instant, on finance, mais on n'y arrive pas. On suivra bien sûr de près cette actualité de la fusion froide, mais ça fait un peu bizarre 30 ans après de revenir sur ce sujet-là. Dernière information, et c'est un petit peu pour sourire. Je vous rappelle que c'est la journée du sourire, donc on va en profiter. Pour les besoins d'une expérience, il y a une équipe de neuroscientifiques allemands qui a passé plusieurs semaines avec des rats dans une petite pièce remplie de carton, très bien, et ils ont découvert que les rats étaient étonnamment adeptes du jeu, alors même qu'ils n'étaient récompensés par aucune friandise. Au lieu de cela, en fait, les rats semblaient sincèrement heureux de découvrir leurs compagnons humains ou d'être attrapés par eux, à en juger par les petits bonds de joie, les cris un petit peu spécifiques qu'ils poussaient, des cris inaudibles pour l'oreille humaine. Donc c'est des ultrasons, et donc il a fallu essayer de capter cela. Et on avait auparavant, étudier ces petits cris, on les avait associés au fait que les rats étaient dans une sensation de bien-être. Donc ils sont heureux de pouvoir retrouver et de jouer avec les chercheurs. Cette étude a été publiée il y a quelques jours dans la très sérieuse revue Science. Et ce n'est pas qu'une histoire mignonne, parce qu'elle donne un nouvel éclairage sur le jeu, qui est un trait évolutif important chez les mammifères. Quand vous travaillez beaucoup avec les rats au fil des ans, vous vous rendez compte à quel point ces animaux sont intelligents et sociaux. C'est ce qu'explique le chercheur Constantin Hartmann de l'Université de Berlin, où sont également basés les autres membres de cette équipe de chercheurs. Il explique « Ce fut une surprise de voir à quel point ils se débrouillaient bien. En fait, les rats en question, ce sont des rats mâles, adolescents, et le terrain de jeu, c'est une pièce de 30 mètres carrés. » Alors précisément, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y a un chercheur qui s'accroupissait pour se cacher derrière un carton, ou bien il donnait aux rats une longueur d'avance pour qu'ils se cachent, et le chercheur devait justement essayer de le trouver et de le chercher. Pendant une à deux semaines, les rats ont appris que commencer le jeu à l'intérieur d'une boîte fermée, puis ouverte à distance, signifiait qu'ils devaient chercher. Tandis que commencer le jeu avec la boîte ouverte signifiait que les rats, eux, ils devaient se cacher. Ils ont rapidement mis au point des stratégies relativement sophistiquées, comme essayer de revisiter des lieux où les humains s'étaient cachés auparavant, ou bien de se mettre à l'abri dans des boîtes opaques plutôt que transparentes lorsque eux se cachaient. Et pour les entraîner, les chercheurs ont récompensé les rats non pas avec de la nourriture ou de l'eau, ce qui aurait un petit peu invalidé l'expérience, parce que là on est plutôt dans une expérience en disant tiens, tu vas apprendre à faire ça puis tu auras ta récompense. Non, ils étaient dans une interaction sociale positive. En fait, c'était un contact simplement physique, à la limite ils les caressaient, ils cherchent notre main, nous leur chatouillons les côtes, c'est un peu comme si on jouait avec des chatons ou des chiots, mais bon, c'est des rats quand même, c'est ce qu'explique Constantin Hartmann. Les scientifiques pensent que les rats étaient motivés non seulement par ces interactions, mais qu'ils aimaient aussi le jeu en soi. Et donc, les rats, ils criaient, ils allaient se recacher ailleurs lorsqu'ils étaient trouvés, ils continuaient la partie de cache-cache, comme s'ils voulaient un petit peu prolonger la séance. Et le jeu a un rôle important dans le développement cognitif des mammifères adolescents. Les rats constituent un modèle idéal pour étudier l'activité cérébrale chez l'homme en raison de leur proximité évolutive, ce qui explique également leur utilisation fréquente en médecine. Les scientifiques voudraient savoir quelles sont les parties du cerveau qui sont liées aux comportements sociaux qui sont impliquées. Mais comme le jeu est une activité fluide, il est difficile d'étudier cela. L'équipe a donc attaché à la tête des rats des espèces de microfils qui vont enregistrer en direct l'activité cérébrale pendant la partie de cache-cache, ce qui leur permettait d'identifier les neurones qui étaient associés à des événements de jeu spécifiques. Ce qui pourrait, en fait, et c'est tout l'intérêt, servir un jour à des études un peu futures pour examiner le développement neuronal lorsque les activités de jeu sont restreintes pendant l'adolescence, par exemple. Alors, tout cela soulève des questions un peu éthiques sur l'utilisation des rats dans les expériences scientifiques et médicales. C'est très souvent dans cette émission, on parle d'expériences scientifiques qui ont été réalisées sur des rats. D'ailleurs, c'était le cas tout à l'heure. Il est très important d'avoir conscience des activités cognitives d'un animal. C'est ce que dit Constantin Hartmann, ajoutant qu'il faut toujours mettre dans la balance l'intérêt scientifique des expériences par rapport à l'utilisation d'animaux. Ce type de recherche aidera les scientifiques à voir dans les rats plus que de simples objets d'expérience, bien sûr. Et voilà, donc des rats ont appris à jouer à cache-cache et ils aiment ça. Et bien voilà, c'est beau quand même la science. Il y a des moments où on se dit quand même il faut terminer par une note positive. Et bien, bonne partie de cache-cache les rats, allez jouer avec vos chercheurs. Et quant à nous, et bien on se retrouve samedi prochain. Je rappelle, émission spéciale à 14h en direct de la fête de la science de l'Université de Technologie de Compiègne. Je vous retrouve avec Peggy pour une émission spéciale de 2h où nous allons vous décrire cette manifestation de vulgarisation scientifique. C'est la fête de la science, profitez-en. Si vous êtes à Compiègne, vous pouvez vous rendre à l'UTC. Si vous êtes partout ailleurs en France, eh bien renseignez-vous, il y a la fête de la science près de chez vous, profitez-en. Ce sera une émission spéciale de 2h la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée à l'écoute des différentes émissions de Graphite, bien sûr, et on se retrouve samedi prochain. À bientôt, au revoir.